vous faire vraiment un plaisir, vous remercier de venir aujourd'hui, étant donné que la chose est une importante, un sujet important, et je pense que ça peut faire beaucoup de bien pour, pas seulement pour vous, mais pour toutes les fidèles, si certains d'entre dames et jeunes filles ont bien compris l'importance de la modestie et de la charité. Donc c'est le but de cette association. Comme l'a expliqué le père, c'est surtout une question de intérieur, de vie intérieure, de bien comprendre quelle est la vocation de la femme dans le plan de Dieu, dans le plan du salut. Et donc, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est les principes, une fois qu'on a bien compris, c'est presque plus facile, non seulement d'appliquer tout ça, mais en plus aussi de savoir s'expliquer et lui faire comprendre aux autres, parce qu'aujourd'hui c'est évidemment des choses qui sont bien loin du monde moderne, malheureusement. Voilà, la parole est peut-être.
Alors, ce sera bien simple, nos réunions. On va essayer de nous former d'abord pour savoir pourquoi il faut garder la modestie, de ne pas seulement nous suivre les indications des pères ou d'autres personnes parce qu'il faut et ne réfléchissez pas. Alors, d'abord, on va prendre tout simplement le livre de Dom Maréchaux sur la modestie chrétienne. Si vous n'avez pas, si vous êtes intéressé, derrière vous, il y a des livres en forme, disons, de brochures et en forme de photocopies. Aussi, il y a quelques informations sur la société telle qu'elle a été formée par le père Emmanuel. Voilà. Alors, on attaque tout de suite notre livre de Dom Maréchaux. On va le voir tout simplement. On va faire un petit résumé. Toute l'action pastorale du père Emmanuel, dont Dom Maréchaux était disciple et continuateur, peut se résumer en deux traits. Le chapelet des hommes, pas facile, hein. La modestie des femmes, non plus. Dans la société de Jésus couronné d'épines, nous nous occupons du deuxième point, de la modestie des femmes. Nous pouvons résumer en deux phrases l'esprit de notre société. D'abord, le prestige de la femme provient de sa retenue, de sa modestie. Et le deuxième, nous voulons que la femme soit reine, qu'elle soit reine. Mais quel est le moyen pour qu'elle la devienne, pour qu'elle soit reine? La réponse, par la modestie, par la retenue et par la pudeur. Ainsi, elle va accomplir son rôle essentiel. Et quel est son rôle? Celui de l'instrument du salut de l'homme, à l'exemple de Notre-Dame. Une petite anecdote. Un jour, un prédicateur de passage développa ce thème sur la modestie des femmes devant le père Emmanuel. Une petite phrase. L'homme se perd par la femme, il se sauve aussi par la femme. D'abord, on va voir assez rapidement qu'est-ce que la société de Jésus couronnée d'épines, qui a été formée, je rappelle, par le père Emmanuel dans sa paroisse à Manille-Saint-Loup. D'abord, la genèse de cette société. Alors, la genèse, c'était l'apparition des modes indécentes qui désorganisaient toute la vie chrétienne sérieuse. Le père Emmanuel a bien rapidement vu le danger. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il disait. Si je laisse passer ces modes, sans effet de la vraie piété, sans effet de la chasteté à notre paroisse, où Marie veut être reine. Et grâce à l'énergie du père Emmanuel, l'invasion de ces modes a été refoulée. Et comment est-ce qu'il a réussi? D'abord, il instruisait avec force et patience. Surtout, il montrait que ces modes provocatrices au péché étaient incompatibles avec les principes de la vie chrétienne. vie chrétienne sérieuse. Mais pour ne pas se contenter, comme je dis au début de l'expression « il faut sinon » ou bien « faites ainsi sans réfléchir », il appuyait ses instructions sur le témoignage des pères, surtout sur saint Cyprien et saint Jean Chrysostome. On le verra plus tard. Enfin, le père Emmanuel rappela les promesses du baptême. Quelqu'un qui renonce aux pompes de Satan, ce qu'on dit samedi saint, ce que nous disons tous à haute voix, celui-ci doit se vêtir par le même modestement. Il faut être conséquent. Quelle était la méthode du père Emmanuel? Alors, il ne voulait pas s'arrêter à mi-chemin. Il voulait qu'on aille jusqu'au bout des conséquences du principe de la modestie. Toute chrétienne doit avoir les règles pour se vêtir. Règles venant de l'esprit de renoncement et de mortification. De noms méconnus et combattus par le monde qui leur oppose égoïsme et jouissance. La chrétienne ne reconnaît pas l'empire de la mode, parce que la mode la transforme en instrument, pas du salut, mais de la corruption et du péché. Et d'où vient aussi la nécessité de cette intransigeance du père Emmanuel et de la nôtre, j'espère, à l'égard des modes. On fait attention à la femme elle-même. C'est que dès qu'une femme accepte la tyrannie de la mode, il faut lui dire tout simplement, c'est la tyrannie, de suivre une mode indécente, elle en viendra de concession en concession. Et bientôt, plus rien ne distinguera une femme honnête d'une femme de mauvaise vie. Et souvent, malheureusement, on a l'impression que toutes les modes d'aujourd'hui étaient un peu avant, disons, expérimentées par des femmes de mauvaise vie. Je ferme la parenthèse. Et à un mal si radical, il faut recourir au remède aussi radical, comme la chimiothérapie vis-à-vis d'un cancer. N'ayez pas peur. Et quel est ce remède? La réponse, c'est le retour aux règles apostoliques. Demandons-nous, que faire pour résister à la poussée du mal? Poussée du mal que nous rencontrons à chaque moment, comme en sortant vos maisons et nous, par exemple, du couvent. Par exemple, quand un ami puissant nous attaque, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement, il faut se grouper, ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut se grouper parce que l'union fait la force et assure la victoire. Le père Emmanuel avait compris qu'une demi-chrétienne est déjà vaincue d'avance, mais que la chrétienne intègre est toujours victorieuse. Et il a eu l'inspiration de fonder une société où notre Seigneur couronné d'épines serait le modèle, comme un miroir dans lequel vous regardez tout le matin, ça serait justement notre Seigneur, le reflet de notre Seigneur couronné d'épines, qui serait votre modèle. Et tout de suite, Père Emmanuel porte la question sur le terrain surnaturel, très rond, tout de suite. Jésus flagellé, couronné d'épines, crucifié, ne doit-il pas être tout dans la vie d'une chrétienne? Est-ce logique que notre Seigneur souffrant soit à l'intérieur d'une chrétienne, dans son âme? C'est facile, en soi, mais pas à l'extérieur. Il faut se donc demander, est-ce que je veux être avec Jésus, couronné d'épines, par la modestie, ou bien contre lui, par l'immodestie? Soit on se range du côté de Dieu, soit du côté de Satan. Il n'y a pas de milieu. Voyons maintenant les règles apostoliques. C'est le soi-disant l'argument d'autorité. On va se servir de deux grands personnages, de saint Pierre et de saint Paul. Alors, saint Pierre et saint Paul ont tracé des règles sur le devoir d'une stricte modestie pour les femmes chrétiennes. Et ces règles doivent être observées au pied de la lettre. Et pourquoi? Parce que les apôtres sont les docteurs de la foi. Ils sont les instituteurs de la vie chrétienne. En ce qui concerne les femmes, les apôtres réduisent leurs prescriptions à deux points. Attention. La soumission des femmes à leur mari et la modestie dans leur manière de se vêtir. Écoutons d'abord Saint Paul. Première épître aux Timothée, chapitre 2, versets 9 à 15. Est-ce que vous voulez que je note? Bon, ça. Sous le tableau, les références. Oui. D'abord, ma prononciation est telle que vous entendez. Ensuite, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Première épître au Timothée.
À Timothée.
Chapitre 2. Versets 9 à 15. Je vais le lire. Que les femmes soient en vêtements décents, se parant avec pudeur et simplicité, sans tresses, or, perles ou habits somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit se tenir dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite et tombée dans la transgression. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, à la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans la charité et dans la sainteté, unie à la modestie. Expliquons un peu. Alors, deux points à retenir, qui sont à la base de la modestie. D'abord, c'est un peu difficile à accepter, surtout aujourd'hui, la prééminence de l'homme sur la femme. C'est comme ça. C'est pas la nature des choses. Adam a été formé le premier et Ève est sortie de lui. C'est ce que nous lisons dans la Bible, tout au début. Deuxièmement, c'est le devoir de réparation à faire. Parce que c'était Ève qui avait entraîné le premier homme au mal. On peut me poser une objection. Bon, c'est bien mon père, mais suis-je concerné, suis-je obligé de faire cette réparation? Je ne suis pas Ève. Ce n'est pas juste que nous soyons toujours coupables, les hommes non. Enfin, toujours non. Si vous voulez bien, je vous réponds. Alors, vous avez un devoir, un pouvoir. D'abord, vous devez éviter d'entraîner les hommes au mal en chassant de vos toilettes tout ce qui provoque la convoitise. Par exemple, artifices de coiffure, or, perles, vêtements de prix. Alors, si vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez toujours réparer, si pas pour vos transgressions, par la communion des saints, vous pouvez réparer des fautes des autres femmes qui font tomber les hommes. Et Saint Paul, à l'ornement de luxe, oppose un autre ornement, celui de bonnes œuvres, de la vraie piété. Ainsi habillée et ornée, la femme deviendra pour l'homme un appui, un instrument de salut. Nous avons vu Saint Paul, passons maintenant à Saint Pierre. Premier épître de Saint Pierre. À Saint-Pierre
ou à Saint-Pierre.
De Saint-Pierre. Merci. Voilà. Chapitre 3e, je vous en prie. Pas de choix, vous prenez le siège de devant. Voilà. Alors, on parle un peu de notre société, du couronnement d'épines. On vient juste de commencer, on voit des arguments d'autorité. On a vu Saint Paul, maintenant passons à Saint Pierre. chapitre 3, versets 1 à 7. Disons. Que les femmes soient soumises à leur mari. On retrouve un peu Saint Paul. En sorte que, si l'on est parmi eux qui ne croient pas à la parole prêchée, ils soient gagnés, sans cette parole, par la bonne conduite de leur femme, en considérant avec crainte et respect leur conduite toute chaste. Que les femmes n'aient pas les cheveux à découvert, des parements d'or, des vêtements préparés avec art, mais que leur intérieur soit riche devant Dieu, par incorruptibilité, d'un esprit tranquille et modeste. Une chose à retenir, la modestie est le moyen bien efficace de l'apostolat des épouses. Parce que leur comportement, s'il est chaste, s'il est modeste, inspire le respect à leur époux. Elle les attire ainsi à la foi. Nous pouvons remarquer une concordance entre ces deux apôtres. On peut résumer en trois points leur prescription sur la modestie. D'abord, pas d'artifice dans l'arrangement de la chevelure, à feu d'artifice. C'est pas très loin, parfois. Pas d'or et de perles dans le parlement, et pas de somptuosité coûteuse dans les habits. Bon, c'est une règle générale, on verra sûrement plus tard, ne vous inquiétez pas, les cas plus précieux, par exemple, les épouses vis-à-vis de leur mari, etc. Alors ne vous inquiétez pas. Et pourquoi ces trois points? Tout simplement parce que la vanité y paraît tout spécialement. Alors, pour résumer un peu, réfléchissons un peu, quelle était et quelle est toujours la vocation du christianisme, d'après toi? Vous avez une idée? C'est quoi?
Du christianisme?
Oui,
en général. Conduire les hommes aussi.
Oui, mais pas quel moyen. Bon, c'est ça, c'est le but. Mais sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, bon, je réponds. La question n'était pas très bien. Bon, c'est de renouveler le monde. Bon. Et si on ne le fait pas, c'est le monde qui va nous changer, tout simplement. Alors, ce renouvellement devait commencer par notre intérieur, par notre âme. Mais, bon, on peut se dire, si par l'intérieur, ça va, chic, je peux m'habiller comme je veux. Parce que c'est l'intérieur qui coûte. Mais non. Mais pour que le renouvellement soit stable et durable, il faut une harmonie entre intérieur et extérieur. Parce que l'homme n'est pas un ange, il est composé de l'âme et du corps. Et le comportement d'un chrétien et d'une chrétienne est tout autre que celle d'un païen. On n'est pas et on ne doit pas être comme tout le monde. Et la manière de se vêtir d'une chrétienne diffère de la manière de se vêtir d'une païenne. Et les païens le voient très bien. Et souvent de telles femmes font leur admiration, même aujourd'hui. Maintenant, passons à un autre sujet, ce sera le précepte de la tête voilée. Écoutons Saint Paul. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 3 à 17. Voilà ce qu'il dit. Je veux que vous sachiez que la tête de tout homme est le Christ, que la tête de la femme est l'homme, que la tête du Christ est Dieu. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer plus tard. Tout homme priant ou prophétisant, cela veut dire qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, La tête voilée déshonore son chef. Toute femme priant ou prophétisant la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle se rasait les cheveux. Si la femme ne se voile pas la tête, qu'elle soit rasée. Si... C'est pas moi qui dis. Patience. S'il est honteux pour une femme d'être rasée ou privée de sa chevelure, qu'elle se voile la tête. L'homme ne doit pas voiler sa tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, alors que la femme est la gloire de l'homme. L'homme n'est pas tiré de la femme est tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme doit montrer quelle est sous puissance de l'homme en couvrant sa tête, à cause des anges. On continue. J'en conviens, l'homme n'est pas sans la femme, non plus que la femme sans l'homme, dans le Seigneur. Car comme la femme est de l'homme, l'homme est par la femme, mais tout est de Dieu. Jugez-en vous-même. Convient-il qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même vous fait connaître que c'est une ignominie pour un homme de laisser pousser sa chevelure, avec affectation, entre parenthèses. Mais qu'une femme laisse pousser sa chevelure, celui est une gloire, car ses cheveux lui ont été donnés comme un voile. Si quelqu'un veut entrer en contestation avec nous, qu'il sache que ce n'est pas notre habitude, ni celle de l'Église de Dieu. Tatani, j'explique. Cherchons d'abord un fil conducteur. Parce que, comme vous avez entendu, Saint Paul n'est pas toujours très facile. Même Saint Pierre avait eu du mal. D'abord, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Je vais faire un schéma, mais je ne peux pas. Alors, l'homme ne dépend que de Dieu et du Christ. Et la femme dépend de l'homme. Alors, Dieu, Jésus-Christ, l'homme et la femme. Et quelle est la conséquence d'avoir la tête voilée ou non de tout ça? Alors, l'homme a la tête nue en signe de sa supériorité. La femme doit se voiler en signe de sa dépendance. Ensuite, d'autres points. La nature a doté la femme d'une chevelure comme voile. C'est comme une indication pour elle, comme une aide-mémoire, comme un anti-sèche, pour qu'elle agisse selon la nature, qu'elle se couvre tout simplement. L'homme, en se découvrant, rend honneur à son chef, à Dieu. Comme des messieurs qui se découvrent en se saluant. Bonjour monsieur. Mais le chef de la femme, c'est l'homme. Une petite remarque qui n'est pas dans le domaine récent. Aujourd'hui, on a beaucoup de crises un peu partout. Entre autres, celles des hommes qui n'accomplissent pas leur fonction de tête de la famille. Mais c'est aussi un peu à vous, chère dame, de les aider. Qui vous gouverne un peu. La chevelure longue chez l'homme est en général un reste de barbarie. Le civilisé porte les cheveux courts. Contrairement à la femme, se raser la tête, c'est une honte. Bon, je donne un exemple de mon pays respectif. Alors, pendant la Deuxième Guerre, quand la Varsovie était occupée, et les femmes qui collaboraient avec des nazis étaient punies, justement, et on leur rasait la tête. Alors, c'était général. Très bien. Bon. On peut se poser une objection. Être tête nue pour une femme, ce n'est pas un péché. Vous me posez une seule question ou pas? C'est une objection? Non? Bon, tout de suite la réponse. En soi, non. On est d'accord, c'est pas un péché. Mais vu certaines circonstances, cela peut être un péché. Exemple. Quand une femme garde la tête découverte là où existe coutume de se couvrir la tête. Exemple, à l'église. Et avoir pour une femme la tête découverte à l'église peut être un signe de l'irrévérence, d'où du scandale. Exemple, en Italie, je pense que Pierre a dit la dernière fois, les femmes s'accusent à la confession d'avoir la tête découverte pendant la messe. Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Peut-être moins. Peut-être moins. Alors, une petite chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça m'a frappé beaucoup. Que veut dire la prescription de saint Paul aux femmes de se voiler la tête à cause des anges? Qu'est-ce que les anges font là? Bon. Mais c'est important parce que ça corrobore un peu notre argumentation. Alors, il y a deux sens possibles. D'abord, comme les anges se voilent la face devant le trône de Dieu, de même, les femmes doivent être voilées, surtout à l'église, par respect à Dieu. Et aussi, à côté des anges invisibles, il y a ceux visibles, qui sont de vos serviteurs, les ministres sacrés. Et l'immodestie féminine trouble leur âme. On reste toujours des hommes, on garde toujours notre nature. Voilà. Même en portant l'habit. Contrairement, la modestie féminine nous édifie. Elle nous garde aussi. Conclusion. Prescription de saint Paul a été partout entendue en ce sens. Voyez, dit Don Maréchal, les vieilles provinces où l'on ne savait ce que c'était qu'une femme tête nue. Alors, si vous voulez bien, si vous avez une idée, une impression, s'il y a des personnes qui seraient intéressées, par exemple, des croires régionales, voilà, qui voudraient nous en, pas seulement s'intéresser, mais qui voudraient nous en parler à la prochaine fois, avec quelqu'un de votre serviteur, on pourrait en parler après la réunion. Ce serait une bonne idée, peut-être, de voir comment c'était avant. Ne vous inquiétez pas, on ne voulait rien imposer ensuite. Voilà. C'est à titre d'exemple qu'on sent comment on s'est fait autrefois.
Les coiffes bretonnes avec les cérémonies.
Comment?
Les coiffes de fête, cérémonies en particulier, les trigones, ne cachez pas complètement la tête.
Ah. Mais c'était joli. C'était beaucoup plus joli que la tête de couverte.
D'accord. C'est le principe d'avoir
fait trois têtes.
C'est vraiment
le 19e.
Les belles
fois
dont on parle, c'est le 19e
qui est déjà mis en place. Ah oui, il y avait juste peut-être très bien, nous continuons. Alors, nous interrompons pour cette fois-ci l'explication du livre de Don Maréchal sur la modestie. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'êtes pas effrayé? Pas trop? Non? Vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a dit?
Oui. La question du voile.
Oui.
Autrefois, le voile était tout le temps. Mais maintenant,
oui.
On peut avoir porter un voile plus
à jour.
Oui.
Bah,
sinon, on est assigné
oui, c'est...
à des mesures.
Ah, là, non,
ça, c'est clair.
Oui, d'accord.
Parce que là.
Bon, il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça sera un peu trop. Ça sera bien sûr trop. Bon. Mais dans notre société, on voudrait d'abord. Comment dire? La première chose, la plus importante, de se bien comporter, de bien habiller à l'église. C'est le plus important. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut s'habiller n'importe comment et partout ailleurs. Mais c'était la question du voile. La modestie oblige partout. Le père Marie-Dominique, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire, il a fait une expérience aux États-Unis, il était, peut-être ce n'est pas lui, mais une personne qui lui a, un prêtre qui lui a raconté, bon, il était reçu dans une famille, la femme est habillée, bon. Tout s'est bien passé, monsieur l'abbé est parti pour prendre son avion, mais il était en retard, il devrait revenir parce qu'il devrait attendre, je ne sais pas, quelques heures. Bon, en revenant, il tape et la dame a changé déjà sa robe en pantalon. Et, voilà. Et il ne faut pas justement qu'on fasse une sorte de, je ne sais pas si c'est bien compris, une sorte de schizophrénie. Cela veut dire que... qu'on s'habille différemment en vue des circonstances. Il faut garder toujours une modestie, mais pour l'avoir, c'est surtout que nous voudrions insister à l'Église. Ça va? Bon. Si j'ai bien compris, même pour les voiles des musulmanes, c'est pas si évident. Je pense qu'au début du XXe siècle, c'était un peu partout dans le pays musulman, c'était déjà dépassé. Mais aujourd'hui, ça donne un aspect de conquête.
C'est une bonne question. Vous montrez là. C'est comme la nourriture halal. C'est pas obligatoire pour eux, mais ils le font pour nous embêter, pour montrer qu'ils sont chers. Ils sont les maîtres. Ils veulent nous imposer leur droit. Puis on remarque aussi que le voile des musulmans, c'est pas seulement la. Le voile des cheveux, c'est.
La
burqa. La burqa,
c'est. Bah oui, mais avant qu'à Londres, j'ai toutes les. Comme je l'ai dit, elles ont toute la liberté.
Mais même en département, même à Angers, les femmes sont tout en cas. Et elles tiennent les commerces. Tous les commerces musulmans sont tenus par les musulmans. Et les femmes, on achète du tissu. C'était une femme musulmane qui était en burqa, et vous savez, elle avait des gants. Elle était en burqa complète, et elle avait des gants.
Vous le savez,
à la Réunion, qui est un département d'Angers.
Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est majeur. C'est comme les musulmans qui se mettent dans la rue, en copie. C'est bien, il ne faut pas avoir honte de prier dans le livre, quand c'est dans le livre. Enfin là, on voit qu'il y a une exagération.
Il faut que la mauvaise femme parle pudeur, parce que moi j'ai vu des femmes voilées, du haut, et puis avec un pantalon allongé, blanc, et ridicule.
Oui, oui, c'est pareil, elle se met sa ligne, et puis ensuite elle pense baigner à la plage, avec donc quand vous sortez du bain, des habits bien moulants, c'est encore plus provoquant que la main.
Très bien. Bon. On va continuer, c'est pas tout. Ça va? Ça va? Première partie de deuxième partie.
Un quart d'heure.
Très bien. Bon. Alors, ça serait beaucoup plus soft, si vous voulez bien. Alors, avec Don Maréchal, nous avons vu quelques arguments d'autorité de première importance. Ceux du premier pape et de l'apôtre, par un A majuscule, Saint Paul. Mais nous pouvons en évoquer d'autres. D'autant plus précieux car ils viennent du camp opposé. Voici une des affirmations des loges maçonniques, citée par le père Maximilien Marie Kolb dans son Chevalier de l'Immaculée de 1924. Citation. Nous ne vaincrons pas l'Église par des arguments, mais par la corruption de mœurs, et surtout par des modes indécents, par des modes sales. Un ouvrage récent dont le titre a été évoqué à notre première réunion, je pense que c'est Madame Tenochon qui en a parlé, une histoire politique du pantalon. C'est horrible la couverture. C'est une dame. Voilà. Qui fume en plus. Voilà. Alors, une histoire politique du pantalon nous invite à comprendre l'enjeu de la question vestimentaire. L'auteur, Christian Bard, professeur avec un E à la fin, d'histoire à l'université d'Angers, n'est pas du tout une traditionnaliste. Mais cela même montre l'importance de la manière de s'habiller. Elle écrit dans l'introduction de son livre. Qu'est-ce qu'un pantalon ? Voilà. Nous savons tous qu'il s'agit d'un vêtement qui nous habille de taille au pied, en séparant nos deux jambes. Cette chose, à première vue bien ordinaire, a cependant une histoire peu banale. Car, autant qu'un vêtement, le pantalon est un symbole. Citation. Qui culotte a, pour voir a, disait-on, avant que le pantalon ne remplace la culotte, qui s'arrête au niveau de genou. Et continuons. Le vêtement a parmi ses différentes fonctions, comme la parure, la pudeur, la protection, celle de permettre une lecture immédiate de l'individu. Voilà, c'est le pape. C'est un moine, c'est un chanoine, un gendarme, un militaire, un médecin, un juge, etc. Le costume reflète l'ordre social et le crée. Enfin, une phrase qui devrait nous faire réfléchir. Le pantalon est le marqueur du sexe, du genre, le plus important pour l'histoire occidentale des deux derniers siècles. Voilà, ce tas de tissus. Et quel événement a eu lieu il y a deux siècles? Écoutons Christian Bard, ou Bard. C'est Bard? Le pantalon est étroitement associé avec la révolution. C'est eux qui disent, c'est pas nous. Aux valeurs républicaines. Républicaines. Placer cette histoire du pantalon sous le signe des trois valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, donne une intelligibilité à ce qui pourrait paraître à première vue comme anecdotique. Quelle liberté? La liberté vestimentaire est l'un des baromètres de la condition et du statut des femmes. L'évolution du vêtement féminin en Occident reflète l'avènement du libéralisme et de l'individualisme. Quelle égalité? On a vu le pantalon porté par l'artisan parisien à l'époque de la Révolution circuler du bas vers le haut de l'échelle sociale. Mais surtout, on a vu le pantalon devenir un signifiant majeur de la controverse sur l'égalité des sexes. Les femmes en sont sorties victorieuses. C'est ce qu'on voit à l'extérieur. Elles suivent maintenant l'exemple masculin. Elles sont plus enclines à choisir des tenues plus uniformes et moins gaies lorsqu'ils travaillent en moins. Et quelle fraternité! Le pantalon a accompagné les mutations du genre dans les deux derniers siècles. De toute façon, le genre est quelque chose d'arbitraire pour les révolutionnaires. Voici ce qu'on dit. Une petite phrase. L'un d'eux. Il n'y a pas de trait naturellement féminin dans le vêtement. Christian Bard fait ensuite un bref recensement des personnalités féminines ayant lancé le port de pantalon chez les femmes du XIXe siècle au XXe siècle. D'abord, nous rencontrons George Sand. Voilà, vous savez quelque chose de plus. Moi, je sais instantanément une chose, vous m'excusez. En fait, c'était une femme de Chopin, un pianiste pour nous. C'est tout ce que je sais. Vous pouvez me dire quelque chose? Vous savez quelque chose sur elle? Elle est qui?
C'est un personnage. Pas complètement la femme que les juifs. Oui, je vais vous donner la partie de sa vie quand elle écrit pour ses petits enfants. Elle écrit des très jolies choses sur la vie qu'elle menait dans le centre de la France. Sur la vie des paysans qui étaient autour d'elle. Mais bon, avant, au début, c'est une féministe convaincue qui se plaisait à s'habiller en homme, effectivement, dans les salons.
D'accord. Alors, ça va continuer. Disons juste quelques passages. À un moment, elle se sépare de son mari et entame une véritable activité littéraire. Elle vit plus souvent à Paris, sans beaucoup de moyens. C'est à cette époque qu'elle se fait faire un pantalon, un chapeau gris, une épaisse cravate de laine et des bottes qui l'enchantent. Ainsi ressemble-t-elle à un petit étudiant, pas petite étudiante, mais un petit étudiant de première année. En 1838, elle rend visite à son ami au château de Nohant, le samedi gras, vers 7h30 du soir. Balzac décrit « La camarade George Sand, dans sa robe de chambre, fumant un cigare après le dîner, au coin de son feu, dans une immense chambre solitaire. Elle avait de jolies pantoufles jaunes ornées d'effilés, des bas coquets, un pantalon rouge. » La notion de liberté de mouvement est pour elle essentielle. c'est vraiment une suite de citations, mais je pense que c'est le plus parlant. Voilà ce que dit. Pour flâner, excuse-moi d'expression, flâner pour se gorger du monde, il faut marcher, beaucoup et longtemps. Tout le monde conspire contre cette liberté. Robe, chapeau, chaussures, vous les femmes à sédentarité. Elle continue. On continue sur elle. La vie masculine renvoie aussi à ses engagements politiques. Vous voyez, il y a un lien entre la manière de s'habiller et de ses idées politiques. Je n'ai qu'une passion, dit-elle, l'idée d'égalité. Cette égalité, elle peut la vivre ici et maintenant, lorsqu'elle s'habille en homme. La relative sobriété du vêtement masculin qu'elle porte exprime également son rêve d'égalité sociale. Républicaine dans les années 1830, elle devient socialiste dans la décennie suivante et le mot communisme la fait rêver, à condition qu'il ne fasse pas couler le sang. Ça fait des caches. Voici ce qu'elle a répondu, la dernière citation, ne s'inquiétez pas, à un journaliste qui lui a déconseillé de se travestir. Je n'ambitionne pas la dignité de l'homme. Elle me paraît trop risible pour être préférée à la servilité de la femme. Mais, important, je prétends posséder aujourd'hui et à jamais la superbe et entière indépendance dont vous seul croyez avoir le droit de jouir. Quittons George Sand. Quittons aussi le 19e siècle. Au début du 20e siècle, des aviatrices et des femmes actives se sont mises à porter le pantalon. Par ailleurs, trois actrices célèbres, Marlène Dietrich, je dis en allemand, vous dites comment? Très bien. Greta Garbo, ça va? Et Catherine Hepburn, portaient volontiers le pantalon, voire le smoking, à Hollywood, dans les années 1930, ce qui choquait beaucoup dans l'Amérique en crise. Donc, est-ce que je pourrais vous donner des réponses? Voilà. Il y a. Je vais circuler. Alors, c'est toujours la même personne qui est habillée différemment. Ça peut être de pas. Je vais circuler. Le premier, c'est bien, mais le deuxième, moins bien. Voilà. Mais cela même, la manière de s'habiller en pantalon contribua très progressivement à démocratiser une tenue masculine pour les femmes ordinaires. Durant la première et la deuxième guerre mondiale, les femmes travaillant dans les usines ou exécutant d'autres travaux pour les hommes commencent à porter les vêtements civils de leurs maris mobilisés, y compris leurs pantalons. On peut dire, quand le chat n'est pas à la maison.
Là, là. Il y avait de la praticité quand même aussi. C'est assez pratique.
Oui, oui.
Dans une usine, certains... un pantalon, ça évite de vous faire apprendre la machine, parce que les mesures de sécurité, à l'époque, c'est pas celle qu'on a actuellement.
D'accord. Mais je pense qu'elle ne le portait seulement dans les usines, justement.
Dans les usines ou dans les champs.
Voilà. Elle le porte un peu partout. Ensuite, Yves Saint-Laurent, qui a intégré le pantalon féminin dès ses débuts, 1962, après 40 ans de carrière, conclura ainsi, au sujet des femmes, servir leur corps, leurs gestes, leurs attitudes, leur vie. Je voulus les accompagner dans ce grand mouvement de libération qu'a connu le siècle dernier. Vous avez vu tout ça? Oui. Alors, nous quittons le livre de Madame avec tristesse, car nous devons constater que l'ennemi a bien réussi son coup. 90% des femmes s'habillent en homme et elles le trouvent tout à fait normal. Mais est-ce tout? Est-ce que les trois idées révolutionnaires, liberté, fraternité, égalité, s'arrêtent là? Par exemple, si les femmes peuvent choisir de se vêtir selon le sexe opposé, pourquoi pas les hommes? Pourquoi pas?
La dernière fois, il y a eu la jupe à Nancy.
Voilà.
Et les hommes s'habillaient en jupe.
C'est
dans un collège, je crois.
Les collèges de Nantes, ils avaient demandé aux enfants, aux garçons, de faire des jupes.
C'est horrible.
C'est pas en Écosse, hein?
Non, dans l'Écosse, les kits sont différents entre les dames et les messieurs. D'accord. C'est pas le même animal. C'est vrai, c'est surprenant de côté.
Ainsi, nous touchons de tout près la théorie du gender, qui veut que tout individu, quel que soit son sexe, soit libre de choisir son genre, masculin ou féminin, voire les deux, dès son enfance. Nous en scandalisons, à juste titre, mais le fait de porter le pantalon, il y a pour quelque chose là-dedans, car celui-ci, le pantalon, n'est que moyen pour atteindre le but, le genre, le gender. Et celui qui ne veut pas l'effet doit aussi renoncer en moyen. Une objection peut se poser. Je ne suis pas révolutionnaire, je suis un bon traditionnaliste. Je porte le pantalon par commodité et seulement à la maison. Et de toute façon, Sainte-Jeanne d'Arc le porte aussi. Je n'ai pas l'inventé. Eh bien, commençons par la fin. La pucelle portait le pantalon pour pouvoir chevaucher. C'est un peu spécial, exceptionnel. Et en prison, elle a remis son habit masculin à la suite d'une tentative de viol. Il me semble que ces deux cas sont assez rares dans un foyer de chevaucher. Et quant à la commodité, bon, elle touche souvent et de bien près la liberté. C'est la force républicaine. Et il faut se bien convaincre que la révolution commence toujours par faire pratiquer les idées avant de vouloir clairement les imposer. C'est astucieux. À force de ne pas vivre comme on pense, on finit. Notre réponse sera de vivre comme nous pensons, tout simplement. Mais il faut bien penser d'abord. Et non pas seulement en vivre, mais aussi en faire vivre les autres. Les pères et les mères de famille, par exemple, en veillant à la tenue de leurs enfants, dès le plus jeune âge. Il faut commencer très tôt. Finissons enfin avec quelques mots du père Emmanuel. C'est une nécessité que l'on puisse distinguer les chrétiennes des mondaines. Et comment les distinguer autrement que par la modestie? On peut ajouter aussi par le port de vêtements féminins décents. Et sans doute, l'observation des règles de la modestie est pour elle un assujettissement. Elle s'expose même à être raillée. Mais se lier ainsi envers notre Seigneur, encourir pour lui quelques moqueries, n'est-ce pas le lot des vraies chrétiennes? N'est-ce pas leur mérite et leur pouvoir? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas trop choquant? Est-ce que ça vous aide de, je sais pas, de argumenter pourquoi il ne faut pas porter le pantalon pour défendre?
Bah, vous aidez? La théorie du genre, là, c'est clair, parce que oui. C'est
encore, on ne sait pas. Et ça, c'est vrai, en fait.
Mais c'est sûr.
Ce qui est dur, c'est pour les jeunes, je trouve, qui se trouvent mêlés à la vie de tous les jours et qui ne sont pas compris, quoi.
Bon, il faut combattre.
Parce qu'il faut de la force pour.
Oui,
être...
oui.
Les gens se moquent d'eux ou...
Est-ce qu'ils se moquent d'eux peut-être oui. Une première fois après aussi.
Bah là, c'est une bataille de oui. Tous les jours pour les amis qui restent en jeu.
Ah oui.
Moi je peux faire un témoignage, une Aloëne qui est avec la prépa à Rennes, personne ne s'est moqué d'elle. Ils ont été un peu surpris au début, c'était l'été, ils n'ont rien dit.
l'hiver dernier, mais c'était toujours en jupe, t'as pas froid. C'est ma façon de m'habiller. Et l'année dernière, il n'y a eu aucune. Alors évidemment, après ça dépend du milieu, c'est sûr qu'une place là-bas, c'est pas non plus le premier imbécile qui y rentre. Mais d'un autre côté, après tout, la réponse est du tac au tac, comme le disait Régina hier avec parler. Si on n'apprend pas à se défendre autant par la parole, c'est-à-dire, mais quand ton jean roulant, tu montes tes grosses fesses, ça fera pas mieux. C'est-à-dire, il faut, des fois, on se un peu dans le lard de la personne.
Et puis il y a une autre chose aussi, c'est souvent, on nous disait à un certain moment, à certaines époques, il faut absolument quand même les jeunes filles se mettre en pantalon en université, parce que justement, en jupe, c'était une certaine époque, la jupe c'est provocant. Enfin, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir des jeunes filles en jupe, ils disaient que c'était provocant. Donc, vaut mieux peut-être mettre un pantalon, c'est quand même plus sûr et c'est quand même une sécurité pour elles. Et en réalité, plusieurs de mes sœurs, donc on sont passées par l'université, et elles l'ont vécu, donc c'était quand même. Mais elles ont trouvé que c'était complètement différent, elles restaient fermes dessus, et puis il y avait une manière de se tenir aussi. Quand on n'a jamais mis de pantalon, on sait se tenir en jupe. Après, c'est sûr que quand on se met en pantalon et qu'on se met en jupe, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Et du coup, ses camarades, leurs camarades, avec qui elles avaient quand même quelques liens, étaient étonnées que les garçons habillés en babacool, les piercings, les machins, les crêpes et tout ce qu'on veut, étaient très très respectueux envers ce genre de jeunes. Et au contraire même, avaient la galanterie que n'avaient pas même des garçons qui nous entourent, c'est-à-dire ouvrir la porte, une place, elle n'avait pas de place, elle arrivait, hop. C'est un babacool qui se levait et qui laissait sa place. Et les autres filles en pantalon étaient furieuses en disant « Mais pourquoi est-ce que Aston Bertrand est comme ça ? Elle est nue, elle est jamais très bien. » Elles étaient furieuses. Elles disaient « Ben, c'est la tenue qui engendre le respect. » Et là, plus rien à dire.
Surtout quand la tenue est l'expression de quelque chose d'intérieur. C'est pas simplement une tenue, mais c'est tout.
Oui, ben, ça force la jeune fille à se tenir aussi.
Et je pense effectivement, oui, ça oblige à avoir un certain courage, c'est sûr. Ça, après, il y a des classes, ça nous donne des. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, David Allègre, c'est un peu différent, mais on dit le général Leclerc de votre qui est un maréchal. Un jour, vous verrez, quel est le jour où vous avez le plus peur de la vie ? Il dit, c'est le jour où je suis rentré à Saint-Cyr, et comme j'avais promis que je dirais ma prière le soir, je me suis mis à genoux pieds de mon lit pour faire ma prière. Et c'est là que j'ai plus peur de ma vie, les moqueries de mes camarades.
Et les
camarades. Et ses camarades.
Et les traversins et les oreillers, c'est tout ça.
C'est vrai qu'à certaines fois, ça demande du courage, mais après, on a beaucoup de respect.
Et mon père, à la fin des six premiers mois, le dortoir se mettait à genoux.
Voilà.
Donc, alors, il faut vraiment que les gens soient convaincus.
C'est un peu le but de nos réunions, c'est d'avoir des convictions et pas simplement des règles extérieures.
Mais ça demande quand même une âme de héros. Parce que moi, je sortais de Saint-Pré pendant 4 ans sur conseil de ma générale, parce que voilà, mes parents étaient autrement le bout de la France et autrement je rentrais qu'aux vacances. Donc j'ai été mise dans une école. Deux garçons qui ouvrent aux filles, au secours, ils ont reçu des coups de pied dans les petites terres, pour eux. Mais j'étais toute seule en jupe. Je peux vous dire que le bon Dieu verse des grâces, tant mieux, mais que j'ai fait des comédies à mes parents pour surtout pas rester comme ça. On nous demande, et quand des enfants sont, après, quand ils sont mis dans des milieux d'étudiants, etc., c'est différent parce qu'ils ont normalement reçu les armes qu'il faut. Mais même à différentes périodes de la vie, si on est mêlé à d'autres enfants, les parents savent qu'ils mettent leurs enfants tout seuls dans un contexte différent, ils leur demandent un peu d'être des héros. Et il y a la grâce qui est là, après, quand on n'a pas le choix, etc., bien sûr. Mais il faut tenir. C'est vrai que c'est...
De plus en plus, on est dans une situation où on est obligé d'exercer des actes héroïques, hein, parce qu'on montre qu'il y a moins d'un chrétien. Pas seulement la moitié ici, mais une façon générale. Il n'y a plus de place pour la médiocrité. Je ne sais pas si peut-être arrêter notre réunion, si vous voulez ensuite la discuter un peu. La question pressée.
Justement, oui, si vous pouvez faire deux choses. Bon, pour la suite, ce qu'on va faire, bon, est-ce que c'était plus ou moins intéressant? Est-ce que vous trouvez des choses qui étaient intéressantes? Non. Voilà. Si vous te répondez à moi. Alors, on va continuer le livre de Dom Maréchal, parce qu'il est très bien. Il est très bien. Il faut avoir, c'est bien profond, c'est très théologique. Ensuite, on va avoir quelques objections et réponses à l'égard de voile à l'église. Voilà. Très simple. Et on va parler de djinn. Du djinn.